Merci de votre fidélité à Radio Kapila, fréquence de la paix. Bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Kapi Service. Comment le mécanisme de paiement de crédit carbone peut être profitable aux jeunes Congolais? C'est le deuxième sujet qui va être abordé tout à l'heure avec notre jeune invité, Bertin Mbuya Kilabi. Bertin, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes finaliste en sciences et gestion de l'environnement de la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa Unikin en sigle et d'or avec vous. On va parler de ces questions, de comment le mécanisme de paiement de crédit carbone peut être profitable aux jeunes Congolais. Si vous êtes intéressé, vous voulez réagir, faites-nous un message vocal au 099-716-9941. Je reprends le numéro 099-716-9941. Peu d'heure, Bassongré, toujours bel et bien là, la mise en note. Mapoukou réalise et coordonne ce magazine présenté par Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matouaki.
Radio Okapi à Bounia, à l'occasion de la journée de l'enfant africain.
Avec Okapi Service, Métissage et Bana Okapi.
Rendez-vous avec Okapi Service le mercredi 14 juin à l'université de Bounia. Et le jeudi 15 juin à l'université Shalom, de 10h à 12h. Heure locale avec jeudi Daniel Kinshama.
Au menu, la situation des enfants victimes des conflits en Ituri et la pacification de la région.
Étudiants, fonctionnaires, hommes politiques, associations des jeunes et des femmes, artistes et autres. Vous êtes tous les bienvenus à ces deux jours d'enregistrement de Capi Service et Métissage.
Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Le système de compensation financière de crédit carbone est un concept en vogue dans les pays qui ont des massifs forestiers comme la RDC. Bien que le marché des ventes de crédit carbone se fait de gré à gré, le gouvernement congolais a fait le plaidoyer visant l'augmentation du prix de vente de crédit carbone lors de la dernière édition de la conférence de parties sur le climat à 100 dollars la tonne au lieu de 5 dollars. Un plaidoyer qui n'a pas encore abouti car le marché de la monétisation de crédit carbone demeure encore verrouillé sur le plan international selon les experts. C'est quoi le crédit carbone? Que faut-il faire pour bénéficier du paiement du crédit carbone? Est-ce que ce type de compensation financière visant la protection des forêts peut être profitable aux jeunes Congolais? Eh bien, on en parle avec notre invité Bertin Mbuya Kilabi, finaliste en sciences et gestion de l'environnement de la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa. Il est avec nous dans ce studio, mais avant d'aborder cette question avec notre invité, je vous invite à suivre cet entretien du professeur Eustache Kidikwadi. Il est docteur en sciences de l'environnement. Il explique en quelques mots le nouveau concept crédit carbone dans cet entretien qu'il a réalisé avec Tati Mapoukou.
Pour la première question, c'est quoi le crédit carbone? Il s'agit d'une unité équivalente à une tonne de CO2 évitée ou séquestrée. Par exemple, les projets qui s'occupent de reboisement, qui s'occupent de conservation, de restauration des sites, et ces projets peuvent planter, peuvent aussi séquestrer, par exemple, 20 000 tonnes de CO2 qui pourraient donner lieu à l'attribution de 20 000 crédits carbone. Et c'est tout à fait correct. Donc, tout projet qui s'occupe à la conservation, au reboisement, restauration des sites, peuvent bénéficier de crédit carbone. Mais ce n'est pas facile. Il s'agit ici de, il faut négocier, il faut des structures spécialisées, il y a des documents spécifiques en matière pour obtenir le crédit carbone. C'est comme dans notre pays, la RDC, aujourd'hui, nous sommes le premier pays en termes de carbone et aussi le deuxième pays à travers le monde. En termes de superficie des forêts. Donc, nous devons bénéficier sans doute parce que nos forêts, nous contribuons à la conservation, nous comptons restaurer les sites et aussi aux projets qui s'occupent au reboisement. Donc, à ce moment-là, nous avons automatiquement droit pour bénéficier de cette notion que nous appelons le crédit carbone. Ce sont les certificats, les documents qu'on doit livrer pour permettre, pour attester et que, effectivement, ce que vous avez reboisé comme ça, qu'est-ce le carbone? Et vous allez bénéficier du crédit carbone. Pour la deuxième question, que faut-il faire pour bénéficier le paiement du crédit carbone? Bien entendu, pour obtenir le crédit carbone en tant qu'entreprise, il faut effectuer des achats de porteurs de projets ou passer par intermédiaires spécialisés dans les domaines qui ont un portefeuille de crédit carbone. Donc, le fonctionnement des crédits carbone ici, monsieur le journaliste, ce n'est pas comme le marché de Gambela ou le marché de la liberté. Non. Il s'agit de la compensation, des négociations. De l'un des côtés, vous avez ceux qui s'occupent des reboisements, des conservations, des restaurations des sites. Ils ont créé ce qu'on appelle des puits de carbone. Alors, à ce moment-là, il y a aussi l'autre côté, ceux qui ont peut donner des entreprises qui sont de grandes, qui émettent une quantité importante des émissions de gaz à effet de serre. Et là, on parle de quota carbone. Donc, on peut voir quel est, par exemple, le quota par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. De l'un des côtés, vous avez le crédit carbone. De l'autre côté, vous avez le quota. Donc, on vous autorise que voilà, vous pouvez libérer autant, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est le quota carbone. Parce que si vous avez reboisé, vous avez conservé, restauré le site, il y a le puits de carbone. Vous avez créé un crédit carbone. Et de l'autre côté, ce qu'on est en train de dire, comme il y a de grands pays qui sont des grands pollueurs, il y a des entreprises, il y a des collectivités, des sociétés, on peut négocier avec eux. C'est dans ce sens-là qu'on peut faire par rapport au crédit carbone. Mais il faut aussi voir ce que nous pouvons faire. Dans notre pays, est-ce que nous avons les lois qui cadrent avec le crédit carbone? Est-ce que nous avons les lois qui cadrent avec le quota carbone? Donc, nous devons d'abord qu'il y ait des lois cadres en matière de crédit carbone, en matière de carbone, en matière de quota carbone. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle aussi de bas carbone. Et ça sera quelque chose d'intéressant pour bénéficier de ce que nous appelons les crédits carbone. Je pense qu'aujourd'hui, avec pour entamer la troisième question que vous avez posée, est-ce que le type de compensation financière visant la protection des forêts peut-être profitable aux jeunes Congolais? Bien sûr. Ce n'est même pas aussi de parler des jeunes Congolais, c'est tout le monde, toute la communauté. Donc nous devons profiter, quels que soient les jeunes, quels que soient les vieux, quels que soient les jeunes, nous sommes obligés, nous devons profiter parce que ce carbone, c'est le carbone de notre pays, ce sont les forêts de notre pays. Tous ces projets qui s'occupent de conservation, qui s'occupent de restauration des sites, qui s'occupent de reboisement, nous devons bénéficier sans doute. Et l'argent que nous allons bénéficier, ça peut servir pour créer des emplois, diminuer aussi la pauvreté dans notre pays. Donc, ça sera intéressant pour que les jeunes bénéficient, sans doute. Donc, c'est très intéressant par rapport à cela en matière de crédit carbone. Donc, nous devons travailler la main dans la main. Il faut qu'il y ait des spécialistes en matière pour voir quels sont les projets qui s'occupent de reboisement, de conservation et aussi de restauration des sites. Et ça sera intéressant. Nous avons un ministère tutelle, ministère de l'Environnement. Et c'est tout à fait correct. Donc, tu ne peux pas créer un projet tant que le ministère tutelle ne connaît pas. Il faut être certifié. Et à ce moment-là, avec les grands pollueurs, on peut négocier pour voir comment on pouvait bénéficier du crédit carbone. Donc, aujourd'hui, le pays tel que le Brésil bénéficie. Allez au Gabon, au Cameroun, il bénéficie. Pourquoi pas la RDC, qui est le premier pays en termes de carbone et deuxième pays en termes de forêt en ce qui concerne la superficie des massifs forestiers. Donc, nous sommes obligés de reboiser, de contribuer la main dans la main pour que nous bénéficions de ces crédits carbone dont nous parlons.
Voilà, c'était là le professeur Estache Kidikwadi, docteur en sciences de l'environnement, qui nous expliquait ce nouveau concept de crédit carbone. C'était au micro de Tati Mapoko. Voilà, on revient à notre invité qui est avec nous dans ses studios, Bertin Mbuya Kilabi, finaliste en sciences et gestion de l'environnement de la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa. Un petit commentaire d'abord peut-être par rapport à ce qu'on vient de suivre avec le professeur Estache Kidikwadi sur le nouveau concept de crédit carbone.
Merci monsieur le journaliste, en tout cas je suis très honoré d'être dans ces studios pour échanger sur cette thématique nouvelle mais très pertinente, importante. Aujourd'hui, je crois que les jeunes qui nous suivent en ces instants seront suffisamment informés. Des commentaires, pas du tout. Les profs essayaient de brosser, en tout cas, dans les gros. C'est notre professeur, c'est mon directeur de mémoire, le professeur Estache. Il a brossé, mais je serai en train de, si vous le permettrez, de donner un peu de généralité. Parce que lorsqu'on parle du crédit carbone, c'est vrai que dans notre pays, l'attention est beaucoup plus focus sur le forêt. Mais le crédit carbone est transversal. On peut avoir du crédit carbone en dehors de la forêt. Et en tout cas, Je crois que c'est un aspect qu'on devrait ouvrir dans les chefs de la jeunesse qui nous suivent en ces instants.
Voilà, on va beaucoup insister sur c'est comment la compensation financière visant la protection des forêts peut être profitable aux jeunes Congolais. Mm-hmm. Et vous, vous êtes particulièrement intéressé parce que vous êtes finaliste en sciences et gestion de l'environnement de la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa. Alors, en suivant le professeur Eustache Kidikwadi, il est plus revenu sur ces trois mots clé que j'ai retenu: conservation, restauration, reboisement, c'est-à-dire tout projet qui vise en tout cas la conservation des forêts, la restauration, reboisement, c'est des projets qui peuvent bénéficier de ce crédit carbone. Et la jeunesse congolaise, est-ce que vous pensez que ces genres de projets peuvent être profitables à la jeunesse congolaise? Est-ce que le jeune congolais s'intéresse vraiment à tous les projets qui sont liés au crédit carbone?
Merci beaucoup. Le prof nous a donné l'aperçu général, c'est dans sa dimension de professeur.
Oui.
Je voudrais revenir sur cette même définition, mais avec des mots jeunes,
pour
essayer de faciliter la compréhension de certains amis qui nous suivent à la maison. En fait, lorsqu'on parle du marché carbone ou du crédit carbone, on fait allusion au fait d'éviter que le carbone soit émis dans l'atmosphère, au fait de réduire sa quantité de carbone et au fait de séquestrer. Vous comprenez déjà que dans ces trois dimensions que j'ai citées, la forêt, c'est la troisième dimension. Si vous êtes jeune, vous avez un projet qui participe au fait d'éviter la production vers l'atmosphère du carbone, donc du CO2, vous pouvez bénéficier du crédit carbone. Par exemple, il y a aujourd'hui des gens qui utilisent des voitures électriques. Il y a des voitures, nettement, ils utilisent les combustibles fossiles, ça émet beaucoup plus de gaz à effet de serre. Mais lorsqu'on a une initiative de mettre en place, par exemple, une entreprise qui produit des voitures électriques, des voitures qui vont émettre le moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est un projet très important qui participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, ce genre de projet peut aussi bénéficier de crédit carbone. C'est la même manière pour tout projet qui, au lieu de conduire à la production du carbone dans l'atmosphère, évite à ce qu'une certaine quantité de CO2 qui devrait être produit soit évitée. Et ça peut aussi bénéficier du crédit carbone. Quand je parle d'éviter les carbones, quand on parle de crédit carbone, on ne voit pas que le CO2. Parce que généralement, quand on parle du carbone, les gens font allusion au CO2. Quand on parle du crédit carbone, on englobe tous les gaz à effet de serre. Les gaz
C'est important de expliquer d'abord c'est quoi ça, le gaz à effet de serre.
Les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui se retrouvent naturellement dans l'atmosphère. Dans ces gaz, nous avons d'abord la vapeur d'eau, donc les H2O. C'est un gaz à effet de serre. Nous avons le CO2, nous avons le méthane et certains gaz liés à l'azote. Comment ça fonctionne? Naturellement, donc dans notre atmosphère, lorsque le soleil nous envoie le rayonnement, ces rayonnements viennent sur Terre sous forme de ultraviolets, des rayonnements UV. Ils viennent sur Terre pour réchauffer la Terre. La première action de ce rayonnement, l'action la plus visible, c'est la photosynthèse. Ce rayonnement, en dehors de nous donner de la lumière, nous permet à nos plantes, à nos arbres de réaliser la photosynthèse, donc pour absorber les carbones et produire de l'oxygène. Mais il y a aussi une quantité de rayonnement qui est à absorber dans le sol. Cette quantité de rayonnement absorbée dans le sol, lorsqu'elle ressort du sol, elle ne ressort plus sous forme d'UV. Ultraviolet. Elle ressort sous forme de ce qu'on appelle les infrarouges. Et les infrarouges, ce n'est rien d'autre que la chaleur. Et lorsque cette chaleur ressort du sol vers l'atmosphère, vers là où nous vivons, ça chauffe, ça réchauffe en fait. C'est pour ça que vous pouvez marcher, vous vous dites ça fait chaud. C'est exactement ces infrarouges. Mais la nature a un système formidable. Il y a dans l'air les gaz que je viens d'appeler les gaz à effet de serre qui absorbent cette chaleur afin de maintenir la température autour de 15 degrés Celsius. Et donc, lorsque ces gaz sont dans l'atmosphère, la chaleur est maintenue et la température est moyenne de 15 degrés. C'est cette température qui permet à ce qu'il y ait des réactions biochimiques pour la décomposition de la matière dans l'agriculture. Tout ce que nous voyons autour de la terre, les animaux, c'est parce qu'il y a une certaine moyenne des températures. Mais lorsque ces gaz, si seulement, selon les estimations scientifiques, si ces gaz à effet de serre n'existaient pas, la température serait en dessous de moins 19 degrés Celsius. Donc c'est au-delà des congélateurs, ça serait gelé la Terre. Et donc ce sont ces gaz qui maintiennent la température normale. Mais qu'est-ce qui arrive? Lorsque la quantité de ces gaz dans l'atmosphère, dans l'air, augmente, donc sa capacité aussi à absorber les rayonnements infrarouges, donc de la chaleur, augmente, ça conduit à un réchauffement du climat. Ça conduit à un réchauffement climatique. C'est pour ça aujourd'hui on parle de réchauffement climatique, parce que il y a eu plus d'émissions de gaz à effet de serre par les industries, par les moyens de transport et par différents besoins que nous avons, par l'agriculture notamment. Et donc tous ces gaz constituent les gaz à effet de serre. Les crédits carbone, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Les crédits carbone en soi, c'est une politique de diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour atténuer les changements climatiques. Et les gaz à effet de serre, il y a le CO2, je viens de citer, il y a beaucoup de gaz. Mais pourquoi on parle toujours du crédit carbone? Pourquoi on vante le carbone? Parce que le carbone, le CO2 en général, c'est un gaz qui dure longtemps dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on l'a pris comme unité de base. Mais si on parle du méthane, le CH4, c'est aussi un gaz à effet de serre qui, lorsque vous avez un projet qui diminue l'émission de méthane dans l'atmosphère, vous pouvez avoir du crédit carbone. Donc, c'est l'équivalent de tous ces gaz qui font allusion au crédit carbone. Simplement, c'est pour que les émissions soient réduites jusqu'à un seuil tel que les réchauffements ne soient pas les plus accentués possibles. Voilà un peu ce qu'on peut retenir sur les gaz à effet de serre.
C'est bien dit. Alors, pourquoi on insiste alors beaucoup sur les forêts, sur la conservation des forêts?
La conservation de forêts a été d'abord la première option choisie pour lutter contre le changement climatique. C'est vrai que dans la lutte contre le changement climatique, il y a des grands aspects. Il y a l'atténuation au changement et l'adaptation. L'atténuation, il y a des solutions que les hommes ont préconisées pour que ce changement climatique qui est en train de ravager presque tout le monde ne le fasse pas à un seuil tel que ça conduit à une irréversibilité des conséquences. Raison pour laquelle dans l'atténuation, il y a d'abord la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Je viens de parler des techniques de on migre vers des énergies fossiles vers les énergies les plus propres, donc les moins polluantes. Mais la seule source fiable pour absorber le CO2 qui est dans l'air et qui est responsable du changement climatique, c'était les arbres. C'est les arbres. C'est comme ça qu'on dit, par la photosynthèse, on peut capter la quantité de CO2 qu'il y a dans l'air, raison pour laquelle aujourd'hui l'attention est beaucoup plus concentrée sur les forêts. Mais c'est pas seulement les forêts. Il faut résoudre les problèmes en amont et en aval. Si nous nous disons seulement que ce sont les forêts qui doivent absorber les surplus des CO2 dégagés par les industries, nous serons en train de résoudre partiellement les problèmes. Raison pour laquelle il y a des solutions aussi en amont. Il faut réduire d'abord ces émissions-là au maximum. Ensuite, celles qui restent, ce sont celles-là qu'on peut compenser par la séquestration forestière.
Alors, quand vous pensez à réduire ces émissions en amont, vous pensez à tous ces pays industrialisés qui polluent l'atmosphère?
Bien sûr que oui. Si nous parlons aujourd'hui du crédit carbone en RDC, c'est pas parce que notre pays est vraiment responsable. L'Afrique entière est responsable de 4% de la pollution de l'air et donc responsable de 4% du changement climatique actuel. Et donc, vous savez que nous n'avons même pas atteint le seuil scientifique de l'erreur qui équivaut à 5%. La grande part des pollutions, elle est européenne, américaine, elle est de pays développés. C'est là où il y a plus d'industries, il y a plus d'émissions de gaz. Et lorsque je parle de crédit carbone, en réalité, c'est un droit qui devait être dit en majorité aux pays en développement comme le nôtre. Il y a d'autre part, d'une part plutôt, de pays qui polluent l'air, qui polluent les océans, qui polluent les sols et qui se développent, qui améliorent leurs conditions de vie. Et d'autre part, il y a des conservateurs de la nature, il y a des protecteurs de l'environnement, de forêts qui meurent de faim. Et donc, l'outil des crédits carbone, c'est un outil, je crois que quand nous allons y entrer en profondeur, on va comprendre que si c'est valorisé dans notre pays, les jeunes peuvent avoir des emplois durables, les populations peuvent sortir de leurs conditions de misère, donc les conditions de vie peuvent changer. Non pas parce que nous avons exploité la forêt, mais parce que nous l'avons conservée et que les pollueurs ont agi selon les principes pollueurs, payeurs, et par conséquent, on va créer un équilibre sur le plan de pollution d'une part et sur le plan économique d'autre part.
Voilà, mais et si nous sommes intéressés à vous, Bertin Mbuya Kilabi, parce que vous avez initié un projet pilote à l'UNIKIN pour ce qui est de l'environnement, parlez-nous un peu de ce projet. Ensuite, on pourra prendre des réactions des auditeurs.
Merci beaucoup. Je initie avec mes amis un projet à l'UNIKIN dénommé Muraille verte en bambou de Chine. C'est un projet qui lutte contre d'abord les érosions, mais aussi contre les changements climatiques. Parce que actuellement, face aux problèmes environnementaux,
muraille verte en bambou de Chine.
Ouais, oui.
Pourquoi seulement bambou de Chine?
Les mots bambou de Chine ne fait pas allusion seulement au bambou.
Oui.
Les mots bambou de Chine, sur les plans scientifiques, c'est ce que nous appelons les noms vernaculaires. Parce que chaque espèce d'arbre ou de plante a un nom scientifique. C'est un nom généralement latin.
Oui.
Un nom latin qui est constitué d'un genre et de l'espèce. Mais quand on parle, par exemple, du bois noir. Les bois noirs, quand je pars en Chine, je dis, donnez-moi les bois noirs, on ne connaît pas. En Angleterre, c'est autre chose. Mais quand je dis, donnez-moi l'Humilentia laurenti, c'est un nom scientifique qui est connu. Et donc, dans chaque pays, chaque espèce a son appellation.
Oui.
Ainsi, le bambou a été identifié comme bambou de Chine, mais en réalité, c'est pas ça. Parce que chaque bambou a un nom scientifique. Les bambous que moi, je suis dans ces projets, c'est le Bambusa vulgaris. Mais le nom bambou de Chine a été choisi juste à titre communicationnel avec les publics pour qu'ils comprennent qu'il s'agit de tel bambou dont on est en train de parler.
Voilà.
Donc,
allez-y.
C'est un projet, je disais actuellement, lorsqu'il y a un problème environnemental, les solutions doivent être intelligentes. Vous pouvez partir d'une solution pour résoudre un tas de problèmes. Raison pour laquelle j'ai opté pour ce projet, pour l'utilisation de l'espèce de bambou, parce que le bambou a une robustesse dans les racines. Ces racines peuvent bien stabiliser les sols et lutter contre l'érosion qui menace l'UNIKIN actuellement. L'UNIKIN compte plus de 70 têtes d'érosion, c'est pas facile. Il faut des solutions durables et intelligentes. Nous avons préconisé le bambou et les projets étaient financés par les fonds forestiers nationaux. Mais la partie supérieure du bambou, sa tige, qu'on appelle la chaume, a une capacité formidable de séquestrer le carbone. C'est une partie qui absorbe le CO2, libère de l'oxygène et piège le carbone. C'est excellent. C'est d'ailleurs raison pour laquelle ce projet a été même inscrit dans le cadre du projet Milliard d'arbres du choc de l'État, parce que les recherches scientifiques ont démontré que le bambou séquestrerait, la majorité des espèces séquestreraient 30 fois plus de CO2 que d'autres arbres, à cause de leur croissance rapide et à cause de leur multiplication. Voilà un peu le projet qu'on
est. Est-ce qu'un tel projet peut aussi bénéficier de ces mécanismes de paiement de crédit carbone?
Bien sûr que oui, il participe à stocker les carbones.
Mais ça doit se passer sur une vaste étendue. Et là, c'est sur quelle étendue?
En fait, nous avons commencé, c'est un projet pilote, on a commencé sur 6 hectares.
Oui.
Mais le défi, il est énorme, il est grand. Au fur et à mesure que nous avons de moyens, nous pouvons le faire au-delà. Et le problème, c'est pas seulement l'UNIKIN.
Oui.
Le Congo tout entier est menacé par les érosions. Et notre technique de planter les bambous sous forme de muraille, je crois qu'elle est la meilleure jusqu'alors. Elle peut lutter contre les érosions et participer à la régulation du climat par la séquestration de carbone sur l'étendue du territoire national.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de la vie au quotidien, Capi Service. Nous parlons de comment les mécanismes de paiement de crédit carbone peuvent être profitables aux jeunes Congolais. Et pour en parler, nous avons dans ce studio Bertin Mbuya Kilabi, les finalistes en sciences et gestion de l'environnement de la Faculté des sciences et technologies de l'Université de Kinshasa. Il vient d'ailleurs nous parler également ici. Vous avez suivi de ce projet muraille verte en bambou de Chine, hein. Ça permet de conserver les CO2 et puis de
lutter contre
les érosions et aussi les effets contre les gaz à effet de serre. C'est bien
ça. Oui, c'est ça justement. Ce que j'ai dit, les bambous séquestrent en fait.
Exactement.
Ils absorbent le CO2 et libèrent de l'oxygène. C'est ça la séquestration.
Super. Alors, si vous êtes intéressé, vous voulez réagir, je rappelle le numéro auquel vous pouvez nous faire un message vocal. C'est les 099-716-9941.
Radio Okapi à Bounia, à l'occasion de la journée de l'enfant africain.
Avec Okapi Service, métissage et Bana Okapi.
Rendez-vous avec Okapi Service le mercredi 14 juin à l'université de Bounia. Et le jeudi 15 juin à l'université Shalom, de 10h à 12h, heure locale avec jeudi Daniel Kinshama.
Au menu, la situation des enfants victimes des conflits en Ituri et la pacification de la région.
Étudiants, fonctionnaires, hommes politiques, associations des jeunes et des femmes, artistes et autres. Vous êtes tous les bienvenus à ces deux jours d'enregistrement d'Okapi Service et Métissage.
Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Voilà, on a déjà un auditeur en ligne qui nous appelle depuis Kinshasa. Maurice nous appelle depuis Kinshasa. On va écouter Maurice. Maurice, vous avez la parole, Maurice. On vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour, Maurice. Allez-y, Maurice. On vous écoute. Vous êtes bel et bien en ligne. Allez-y, oui. On vous écoute. Oui.
Oui, c'est ma réaction par rapport à la crédit carbone. C'est que pourquoi on a institué ça, c'est parce qu'on voulait limiter l'émission de gaz à effet de serre et aussi faire en sorte que toute personne qui participe à travers un projet ou ses activités en limitant ou en réduisant les émissions à gaz à effet de serre, il a du crédit carbone. Et en matière, en RDC par exemple, l'argent ne va pas être distribué à toute personne. Cet argent sera distribué aux porteurs des projets qui sont les jeunes ou les vieux. Toute personne qui a un projet allant dans le sens de séquestrer ou de limiter les gaz à effet de serre, il va avoir un quota de son crédit carbone qui va être estimé en termes d'argent. Le nombre de tonnes qu'il séquestre la journée ou pendant toute une année, et il va être payé sur base de ça. C'est pourquoi, dans cette perspective, la politique dans notre pays devrait, dans un premier temps, pour permettre que la gestion ou la distribution soit équitable, il faut identifier les porteurs des projets, identifier à quelle quantité chaque projet participe à la réduction ou à la séquestration des dioxydes de carbone. C'est ce qui va permettre en ce que l'argent soit réellement distribué pour éviter les fléaux qui est dans notre pays, la corruption, le détournement, etc.
Alors Maurice, vous avez parlé d'identifier les porteurs de projets. Est-ce que vous-même vous êtes intéressé par ce projet de crédit et carbone?
Oui, je suis intéressé à mon niveau. Nous avons élaboré plusieurs projets, entre autres 10 arbres pour mon diplôme. C'est un projet qui a le but d'influencer ou d'impliquer dans les bases des étudiants qui s'inscrivent à l'université de planter 10 arbres pendant son parcours, ce qui va lui permettre jusqu'en arriver en terminale, il aura déjà planté 10 arbres et il va en permettre l'entretien et surveiller sa croissance. C'est dans ce genre de projet que si le gouvernement nous accompagne à mettre ça en œuvre, on va alors identifier ou cartographier le nombre de tonnes de dioxyde de carbone que ce projet va commencer à séquestrer. Et c'est ce qui va permettre en sorte qu'on participe ou qu'on puisse recevoir l'argent lié au crédit carbone.
Voilà, merci à Maurice d'avoir appelé depuis Kinshasa. Je reviens à notre invité, Bertin Bouya-Kilabi. Vous avez suivi cette initiative également de planter 10 arbres pendant son cursus académique. Qu'est-ce que vous y pensez?
Non, c'est un très bon projet. Monsieur Maurice, merci beaucoup pour vos explications. Je voudrais revenir sur un point très important pour donner un peu de généralité sur comment ça se passe ce marché des crédit carbone.
Crédit carbone.
C'est depuis 1997, à l'accord de Kyoto, si je ne m'abuse pas, qu'on a institué qu'il existe aujourd'hui des types de marché carbone. Le premier marché carbone est réglementé et le deuxième, il est volontaire. Lorsqu'on parle du marché carbone réglementé, on fait allusion aux engagements que les États membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se sont assignés pour que leurs entreprises réduisent leurs émissions jusqu'à un certain seuil. Ça veut dire, par exemple, on vous dit, en République démocratique du Congo, les entreprises d'une certaine catégorie ne peuvent émettre par an que 25 000 tonnes de CO2. Ça, c'est un quota. Et ça, c'est reconnu dans l'accord. Et donc, si vous êtes en train de produire, vous émettez jusqu'à 25 000 tonnes de CO2 par an, vous avez atteint votre quota. Mais si vous polluez au-delà de ces quotas, donc vous êtes obligé de payer une taxe par rapport à votre surplus pour que cette taxe permette à ceux qui ont de projets de plantation d'arbres, etc., pour séquestrer les surplus de votre pollution. Parce qu'en soi, on doit se développer. C'est comme ça que ça existe. Mais il y a aussi des entreprises qui, elle a un quota de 25 000 tonnes de CO2 par an, mais il n'atteint pas 25 000. Le surplus, là, il peut le vendre aussi. Il peut vendre son quota à une entreprise qui a déjà dépassé son quota carbone par an. Ça, c'est les marchés réglementés. Mais actuellement, on parle beaucoup plus du marché volontaire. Donc, c'est pas l'État qui a la charge de centraliser l'organisation de comment les choses doivent se faire dans la vente ou dans l'achat de carbone. Ce sont des entreprises consciencieuses de leurs conséquences, des impacts de leurs actes sur l'environnement, se disent, nous devons contribuer pour la restauration de notre milieu parce que nous sommes des acteurs de la destruction de ces milieux. Les entreprises s'organisent et puis ils mettent en place des structures pour acheter et vendre les crédits carbone.
Et acheter auprès de qui?
Acheter auprès des porteurs de projets. Il a dit, Monsieur Maurice l'a dit.
Oui.
Ce sont des gens qui ont de projets.
Et vous vous présentez devant ces entreprises?
Oui, devant ces entreprises. Et puis vous dites, j'ai un projet qui a une capacité de séquestrer autant de tonnes de CO2, par exemple, lorsqu'il faut parler de la plantation, par an. Et donc, si cette entreprise a déjà son bilan carbone, donc il sait déjà que mon entreprise produit, émet dans l'atmosphère autant de tonnes de CO2 par an et que je ne suis pas dans les quotas selon l'accord climatique. Et donc, l'entreprise se met dans une certaine obligation morale de subventionner ses projets pour que ça crée une compensation de ses émissions pour maintenir l'équilibre climatique. Et cela s'est fait par ce qu'on appelle les certificateurs. Ce sont des experts. Il existe des organismes.
Bah justement, c'était une question qui me venait à l'esprit.
Oui.
Comment quantifier, comment tout.
Parce que ce sont vraiment des calculs.
Oui.
Ici, on parle de beaucoup plus des arbres, mais ce n'est pas seulement les arbres.
Vous l'avez dit d'ailleurs.
Oui, je l'ai dit au début, j'ai dit tout projet qui consiste à réduire les émissions, à les éviter ou à les séquestrer peut bénéficier du crédit carbone. Et là, il existe des méthodologies bien tracées par des certificateurs. Ce sont des organismes. Il y en a une dizaine, mais les plus connus, nous avons le VSS, qui est un peu connu, qui a presque plus de 50% de marché carbone volontaire à travers le monde. Il y a les plans Vivo sur Mabispa et d'autres organismes qui travaillent dans le secteur. C'est eux qui mettent en place les experts. Vous avez un projet, ils viennent, ils évaluent votre projet, ils voient les tenants et les aboutissants, et ensuite ils peuvent vous dire votre projet a une capacité soit d'évitement d'autant de tonnes de carbone, soit de réduction d'autant de tonnes de carbone, soit de séquestration d'autant de tonnes de carbone. Et voici les critères comment le faire. Le projet doit répondre à certains types de critères, parce que c'est pas comme ça qu'on donne les crédits carbone.
Oui.
Le projet doit être, on doit mesurer ces émissions-là, je viens de parler, quel seuil d'évitement, quel seuil de réduction, quel seuil de séquestration, donc de stockage de carbone. On doit aussi vérifier. Il faudrait que les porteurs du projet aient les capacités internes à vérifier sa capacité stable de réduction, d'évitement ou de stockage de carbone. Donc ça demande un certain investissement sur le plan individuel de celui qui vient avoir les crédits carbone. Et l'autre aspect, il faudrait que le projet soit durable. Ce n'est pas parce que vous avez une idée, vous voulez planter, qu'on doit vous donner du crédit carbone. Non, non. Les certificataires doivent s'assurer que le projet que vous mettez en place réponde à des notions de développement durable. Il faudrait que votre projet, qu'on dise, ça va aller de 7 à 10 ans ou au-delà, ces services seront rendus à travers l'humanité et par conséquent, vous êtes dans ces critériums et puis vous pouvez bénéficier du crédit carbone. Donc voilà, c'est vraiment un travail de fond
qui doit se faire.
Tout un processus.
Oui.
mais qui en vaut la peine parce que...
Et vous êtes dans ces processus-là avec,
avec la muraille... verte en bambou de Chine.
D'accord.
Nous y travaillons progressivement.
Ah, super. Alors, parlons un peu du prix actuel de crédit à carbone, la tonne. On a parlé à un moment, on parlait de 5 dollars la tonne.
5 dollars
la tonne. Le gouvernement congolais a amené un plaidoyer pour 100 dollars la tonne. Qu'est-ce que l'année?
Ah oui, actuellement, le marché carbone à travers le monde, s'il faut l'estimer, c'est un très petit marché. Parce que il équivaut par an à environ 5 millions de tonnes de carbone qui sont échangées en argent. C'est presque 0% en termes d'émissions du monde parce que le monde produit dans l'air à pratiquement 51 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Donc le marché carbone, c'est un marché très débitant. C'est ce qui peut même expliquer comment est la faiblesse de son prix. Et actuellement, si vraiment nous voulons un monde meilleur, les marchés carbone seraient un marché à vanter, un marché à préconiser, parce que ça crée un équilibre. Alors que les entreprises sont appelées à réduire leurs émissions, lorsqu'on y met le marché carbone, ils se disent, plus on pollue, plus on doit payer. Donc, par conséquent, on doit réduire nos émissions. Le plaidoyer, c'était fait par le chef de l'État, je me souviens, à Glasgow.
En Écosse, oui.
Il a demandé à ce que la tonne de carbone soit quand même révise à un certain prix. C'est motivant. Moi, par exemple, avec mon petit projet pilote de bambou des Lunikin.
Vous avez une idée sur
ce la projet, capacité de séquestration? Oui. Et... après 5 ans, déjà, mon projet pourrait séquestrer jusqu'à 360 tonnes de CO2 par an. Et donc, si la tonne est équivalent à un chiffre de 5 dollars, donc j'aurais pas vraiment une très grande motivation parce que ça va faire une moyenne de 1800 dollars par an.
Et donc non, moins de 2000 dollars.
Moins de 2000 dollars.
Oui, oui.
Oui, toute cette petite plantation, mais si la tonne de carbone serait révisée même à 20 dollars la tonne, donc je peux avoir 3600 dollars, donc l'université peut avoir 3600 dollars l'an. Et 300 dollars le mois avec ses plantations. Et à côté de cela, quand on le fait, ce n'est pas seulement l'argent. Parce que cette plantation-là vous produit l'oxygène que vous respirez très bien.
Oui.
Cette plantation-là restaure la biodiversité. Ce sont des co-bénéfices qui entrent en jeu. Et donc, la révision du prix du marché carbone comme notre pays le plaide, c'est une question fondamentale. Même à travers le monde, pour que ce marché ait de la valeur et que ce résultat participe à maintenir l'équilibre du monde. Parce qu'en soi, les marchés carbone est né, comme je l'ai dit tout au début, c'est pas parce qu'on voulait avoir l'argent qu'on a créé ce marché. C'est parce que nous voulons vivre dans un monde meilleur qu'il faut mettre en place certaines contraintes financières pour que les pollueurs arrivent à réguler sa pollution par le paiement de certains fonds pour créer un équilibre entre les pollutions de ces entreprises et les personnes qui, elles ne polluent pas, mais protège les forêts pour maintenir un équilibre.
Est-ce que par rapport à votre projet, parce que c'est tellement intéressant qu'on va y insister, de cette muraille verte en bambou de Chine, est-ce que vous cherchez des financements pour essayer de voir comment étendre ce projet? C'est vrai, c'est un projet pilote. Mm-hmm. Est-ce qu'à l'avenir, vous pensez, au cas où tout marcherait comme vous le souhaitez, mm-hmm. essayer de chercher des financements pour essayer un peu d'étendre ce projet ailleurs à travers le pays?
En tout cas, c'est ce que nous avons besoin.
Oui.
Ce que nous avons besoin. Les fonds forestiers nous ont accompagnés pour le premier projet pilote. C'est celui que nous sommes en train d'exécuter. Mais les soucis seraient de l'étendre.
Oui.
Je viens de parler des projets intelligents actuellement. Nous avons besoin de projets inclusifs où les solutions sont transversales. Et mon souci, sachant que notre pays est très menacé par les érosions, franchement, ces projets va non seulement lutter contre les érosions, mais va lutter contre les changements climatiques et va absorber de grandes quantités de CO2. Je viens d'évoquer sa capacité à séquestrer 30 fois plus de CO2 que d'autres arbres parce que le bambou a une croissance rapide. Un seul bambou, à l'espace de 5 ans, peut donner 50 autres individus. Donc ça a une grande capacité à faire une grande biomasse et le bambou, c'est l'espèce d'avenir. Aujourd'hui, à travers le monde, le bambou, c'est une espèce vraiment vantée. Et c'est une espèce de la transition écologique. Il y a même des acteurs, certains auteurs qui les appellent de l'or vert. Et donc, si nous les plantons dans des grandes étendues, nous faisons ce qu'on appelle le bambouseraie. Parce qu'il y a le bambousé, ce sont des forêts naturelles de bambou. Ça existe dans certains pays. Mais si on fait des plantations de bambou, ça s'appelle le bambouseraie. Si nous les faisons, nous allons augmenter les puits carbone. Et cela peut nous rapporter du crédit carbone.
Et parce que quand vous parlez des bambous, on sait même voir sur certaines routes nationales comment des bambous qui sont plantés pour protéger la route contre les érosions.
Oui, mais au-delà de cela, il y a leur fonction à filtrer l'air, à absorber les carbones, donc les COD et libérer l'oxygène. C'est formidable.
Voilà. Alors, vous avez également dit que la séquestration du CO2, c'est pas seulement avec de projets liés à la conservation de forêts. Vous avez dit il y a aussi d'autres projets en dehors de la forêt. Vous pouvez donner une idée par rapport à ces autres projets, peut-être que d'autres jeunes pourraient être intéressés plutôt que tout le monde puisse se focaliser sur la forêt, sur le reboisement, sur la restauration, sur la conservation de la forêt.
En tout cas, merci. Je vais, si vous permettez, de corriger quelque chose. Je n'ai pas dit la séquestration. La séquestration, c'est la troisième unité. J'ai dit, pour bénéficier du crédit carbone, il faut mettre en place un projet. Oui. Un, qui est capable de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Deux, qui est capable d'éviter les émissions de gaz à effet de serre. Et trois, qui est capable de stocker les émissions de gaz à effet de serre.
Il faut remplir toutes ces trois conditions.
Non. Oui. Vous pouvez être dans une seule condition vous bénéficiez du crédit carbone.
Ah, d'accord, c'est bon. D'accord.
Ça signifie quoi? Je donne un exemple d'un projet qui peut bénéficier du crédit carbone. Lorsque on laisse la population utiliser les braseros normaux, c'est les mbaboula qui les utilisent ici, oui. Les recherches scientifiques ont démontré que ces mbaboula, les anciens Mbaboulala, perdent jusqu'à 75% de leur potentiel énergétique dans la cuisson. Donc, lorsque vous utilisez les charbons de bois dans ces braseros, vous perdez jusqu'à 75% de l'énergie qui devrait être servie à la cuisson de la nourriture. Et donc, quand vous perdez cette énergie-là, vous perdez de la forêt parce que les makala, les charbons proviennent de la forêt.
Oui.
Et donc, lorsque vous mettez en place un projet qui consiste à réduire ou à concentrer l'énergie perdue vers la cible et que on ait une capitalisation en termes d'efficacité énergétique, c'est un projet qui participe indirectement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Non pas parce qu'on a planté la forêt, mais parce qu'on est intervenu en amont. C'est exactement dans cette tracée où il y a le foyer amélioré aujourd'hui. Vous allez voir avec des foyers, avec des céramiques, à l'ISTA, il y a tout un laboratoire. Je venais de les visiter. Laboratoire des énergies renouvelables où on produit des braseros très économiques. Des braseros qui économisent la consommation en charbon de bois et qui ont un rendement énergétique très efficace. Ce sont des projets qui peuvent bénéficier du crédit carbone parce que ça réduit les taux d'émission. Parce que d'autre côté, en amont, si on laissait ces anciens braseros-là continuer à utiliser, on aura besoin de beaucoup plus de makala et par conséquent, on devra beaucoup plus couper la forêt. Mais si on utilise les foyers améliorés, c'est comme si on réduit. C'est pas comme si, mais en réalité, on réduit les besoins en charbon de bois et par conséquent, on laisse la forêt tranquille. Ces projets-là, c'est un projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut bénéficier du financement. Un autre exemple que je donne, la mauvaise gestion des déchets organiques conduit à la production des gaz à effet de serre, notamment le CO2, le méthane. Ce sont des gaz qui sont émis lorsque les déchets se décomposent dans l'anaérobiose, donc dans l'absence de l'oxygène. Et ce sont ces gaz-là qui participent au réchauffement climatique d'une certaine manière. Et lorsque vous mettez en place un système de production du gaz pour la cuisson à partir des déchets biodégradables, vous n'avez pas forcément planté, mais vous avez évité. Ça, c'est le deuxième concept. Vous avez évité à ce que le CO2 ou le méthane qui était contenu dans les déchets soit dans l'atmosphère pour réchauffer. D'ailleurs, le méthane, entre parenthèses, ça réchauffe la Terre à plus de 21% comparativement parlant au CO2. Donc, une molécule de méthane équivaut à 21 molécules de CO2.
Donc, c'est différents projets. Hein,
oui, c'est différents projets. Exactement. Et maintenant, l'autre projet, c'est là où maintenant on parle de la séquestration.
C'est bien dit. Voilà, on va rapidement lire ces commentaires sur la page Facebook de Capi Service. La maître Edmond Boko qui écrit de Kinshasa. Pour y voir à la hausse la vente de crédit carbone, les opérations du marché doivent être publiques par appel d'offres, comme on l'a fait avec des blocs pétroliers. En plus, la population ne sait pas où va cet argent de la vente de crédit carbone, même pour les communautés locales elles n'en bénéficient pas. Alors, et cette question est comment est-ce que nous pouvons procéder pour avoir ces bambous de Chine? Ça, c'est Maté, hein, et qui est conseiller au comité des déplacés internes à Béni.
Ok, le bambou de Chine, nous avons toute une grande pépinière qu'on appelle la bambouserie de l'Unikin. Je crois que si nous contactez après l'émission, nous pouvons garder contact et il peut y avoir ça, Yana, et il n'y a pas de problème pour avoir ça.
Voilà, on va voir réagir par rapport à ça pour qu'il puisse entrer en contact avec vous parce que vous voulez pas le faire en direct. Alors, un commentaire par rapport à ce que nous a écrit Maître Edmond Bokolo. Il dit que pour revoir à la hausse la vente des crédits carbone, les opérations des marchés doivent être publiques par appel d'offres comme on l'a fait avec le bloc pétrolier.
Le bloc pétrolier. Ah oui, hein, ça c'est vrai, c'est une bonne politique. Mais déjà, attention. Notre pays, donc je parle du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, venait de proposer un décret loi sur l'autorité de régulation du marché de carbone ici dans notre pays, où il y aura une institution de l'État créée pour réglementer toutes les transactions liées au crédit carbone. D'abord en commençant par les marchés locaux. Donc on verra les entreprises congolaises qui sont ici, qui qui émettent des émissions. Donc on peut faire cet organisme va mettre en place une régulation du marché carbone interne. Je crois que c'est pas un marché qui peut être caché en réalité. Donc l'État sera juste là pour coordonner. Je crois que c'est un bon plaidoyer qu'il vient de faire et c'est que les autorités doivent écouter ça pour que lorsqu'il y a des avantages comme ça, que les choix du projet ne soient pas d'une certaine manière, que ça soit en tout cas à l'offre publique où tout le monde qui a un projet innovant peut avoir accès au crédit carbone. Mais l'aspect le plus important que je viens de citer, c'est le marché carbone volontaire. Ce marché-là n'est pas forcément réglementé par l'État. Si les entrepreneurs congolais ont une conscience de leurs actions sur l'environnement, ils peuvent commencer à subventionner de particuliers et de manière gré à gré pour avoir des financements. Pour avoir des financements, pour reboiser, pour soutenir les différents projets qui peuvent réduire, éviter, séquestrer les carbones. Et donc d'ailleurs, c'est les plus grands marchés au monde actuellement, c'est les marchés volontaires. Mais nous encourageons notre pays, notre État, à avoir une autorité de régulation de ce marché carbone et que ça soit fait avec beaucoup de transparence comme le fait le demande un de nos auditeurs en fait.
Bertin Bouya Kilabi, merci d'avoir été des nôtres. C'était intéressant de vous avoir comme invité dans ce studio pour aborder cette question sur comment le mécanisme de paiement des crédits carbone peut être profitable aux jeunes Congolais. Avec nous avons découvert ce projet intéressant que vous avez initié avec la muraille de verte de bambou de Chine à l'Unikin. Il y a également c'est un intervenant qui a parlé d'un projet de la plantation de 10 arbres. C'est vraiment des projets intéressants.
Non, c'est très innovant.
Tout à fait. On espère vous retrouver prochainement. Je rappelle que vous êtes finaliste en sciences et gestion de l'environnement de la faculté des sciences et technologies de l'Université de Kinshasa. Merci beaucoup.
C'est un grand honneur. Merci.